Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on se retrouve comme chaque semaine pour vous accompagner dans le monde de votre patrimoine, pour vous faire découvrir telle ou telle stratégie, concept ou idée d'investissement. Pour vous accompagner, c'est votre rendez-vous patrimonial hebdomadaire sur Radio Patrimoine. C'est donc parti comme chaque mercredi pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on attaque ce rendez-vous ce mercredi par un coup d'œil sur les marchés. Il faut dire qu'il y a quand même pas mal de questions qui peuvent se poser en ce moment sur cette classe d'actifs, sur les marchés actions, notamment avec des banques centrales, avec des agences de notation. Pour en parler, Marc Riez. Bonjour Marc.
Bonjour Cédric.
Pour VegaIM, notamment banque centrale, donc encore oui. Et toujours, j'ai envie de dire, on pourrait presque les faire rimer avec les agences de notation. On a l'impression qu'elles se relaient presque
les unes et les autres,
ouais, en se renvoyant en quelque sorte la balle. Avec quand même aussi un changement de pied. D'habitude, il n'y a pas de question. Historiquement, c'est les Américains qui tirent les premiers et la BCE, bon an, mal an, qui suit, qui embraye le pas comme elle peut. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on pourrait vivre quelque chose de quasi historique, puisque ça ne s'est jamais produit. La BCE pourrait taper en premier. Quel est votre sentiment sur cette éventuelle grande première ?
Cette éventuelle grande première, elle est surtout motivée par le fait que, plus que jamais, on voit une économie américaine qui domine de la tête et des épaules l'économie européenne. Donc finalement, on a deux banques centrales qui se retrouvent dans des situations très différentes, entre une banque centrale américaine qui doit faire face à un marché du travail très tendu, à une inflation qui a du mal à baisser, et à une économie qui continue à caracoler. Donc effectivement, elle se pose des questions, elle voulait, en fin d'année dernière, commencer à baisser ses taux ce printemps, et puis au vu du redémarrage de la conso américaine en ce début d'année, des salaires qui tiennent bien, elle hésite, elle repousse régulièrement cette échéance, voire même elle se demande si effectivement elle va pas encore, le cas échéant, les monter encore une fois. Et par rapport à ça, on a une économie américaine moribonde, une économie européenne, pardon, moribonde, puisque on n'a pas du tout de croissance en zone euro. Et là, pour le coup, le niveau des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne est clairement disproportionné par rapport au risque inflationniste. C'est vraiment le maillet qui veut écraser un minuscule insecte.
Une absence de fourmis, ouais.
avoir pas du tout de fourmis. Et donc, effectivement, vous avez raison, Cédric, peut-être que cette fois-ci, la Banque Centrale Européenne, et je l'espère en tout cas, va s'affranchir de sa grande sœur et va être capable, seul déjà, de commencer à baisser ses taux. On est à 4,25, 4,50, ouais. C'est beaucoup, beaucoup trop élevé par rapport à une inflation en zone euro qui est revenue vers 2, avec pas de croissance, un marché de l'emploi beaucoup moins solide. Les taux européens n'ont rien à faire.
Bien sûr.
Au niveau actuel.
Ça, c'est vraiment pour l'Europe, mais vous l'avez dit, la Banque Centrale Américaine, elle recule, en espérant réussir à un moment à franchir le pas. Mais elle a un petit peu l'épée dans le creux des reins, c'est-à-dire qu'elle a aussi un calendrier politique
oui.
qui est hyper contraint, et on sait qu'il y a, alors bon, c'est pas gravé dans le marbre, mais il y a cette espèce d'accord tacite qui fait dire que la Banque Centrale Américaine, théoriquement, n'agit pas aux abords d'une élection présidentielle américaine. Et cette élection-là, elle est encore peut-être plus spéciale que toutes les autres.
Elle est en tout cas très clivante. Et avec des niveaux d'opposition qui risquent d'être de plus en plus violents à l'approche des élections. On voit d'ailleurs que les sondages, à un moment donné, donnaient à nouveau Biden devant Trump, puis à nouveau maintenant Trump devant Biden, et ce, en quelques semaines seulement. Donc c'est une élection qui va sûrement être très serrée, et qui, comme souvent aux États-Unis, va se jouer sur la santé de l'économie, dans les mois.
Et donc, en fait, elle se retrouve un peu pas coincée, mais.
Elle est en tout cas l'arbitre des élégances ouais. et elle sera très, très, très surveillée à cet égard-là. Puisqu'évidemment, baisser les taux juste avant une élection présidentielle, ce serait perçu par le camp républicain comme un coup de pouce clair à la réélection de Biden. Donc, effectivement, elle a un peu pas beaucoup de temps devant elle pour pouvoir le faire maintenant.
Ça, ce sont nos banques centrales. Et puis, je le disais, il y a aussi les agences de notation qui font parler d'elles. Alors, ça
oui.
nous a surtout concernés en France. Mais voilà, on s'est fait peur il y a quelques heures, quelques jours, en se disant, est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Finalement, statu quo et pour Fitch et pour Moody's. Ça vous inspire un commentaire ou pas ? Parce que Le gouvernement, lui, par la voix de Bruno Le Maire, il espère beaucoup, notamment des marchés, notamment d'une reprise de croissance grâce à la baisse de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on en dit de ces agences de...
Bah, je pense qu'elles font leur travail, c'est-à-dire qu'elles font des constats. Même si cette fois-ci, elles n'ont pas fait tomber le couperet qui guillotinerait la note de la France, on sent bien que malgré tout, dans les propos qu'elles tiennent autour du fait qu'elles maintiennent la note, c'est une question un peu de temps.
Oui, elles aiguisent.
elles aiguisent le couteau et la lame, parce qu'effectivement, on voit bien que la France a un niveau de déficit budgétaire qui est très supérieur aux autres pays qui sont notés comme elles, AA par exemple, chez Fitch. Et on voit que de la même manière, le taux absolu de dette sur PIB, qui est autour de 110% maintenant en France, est à peu près le double de la moyenne des pays qui ont cette notation. Mmh. Alors heureusement, le français est réputé payer beaucoup d'impôts efficacement, ouais. gentiment et proprement. Donc l'administration fiscale française a encore l'estime et a grand crédit sur les marchés financiers, c'est... Au moins une administration qui fonctionne. C'est quand même déjà mieux que rien. Bon, c'est pas le cas de toutes. Mais il va falloir que Monsieur le maire ne se contente pas d'espérer. Et, parce que je pense qu'il espère, il est certainement content que le couperet ne soit pas tombé cette fois-ci, c'est bien. Mais en l'absence de mesures structurelles, d'économie budgétaire, de réduction des dépenses, voilà, on est quand même sur une pente où la prochaine fois, ou celle d'après, eh bien, voilà.
Et dans ce contexte-là, on a quand même des marchés qui sont à des niveaux stratosphériques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un épargnant, dans son patrimoine, aujourd'hui, il doit être présent sur les marchés. C'est encore le moment d'être là.
Mais bien sûr.
Sur toutes les classes d'actifs.
Alors, sur toutes les classes d'actifs. En tout cas, il y a deux grandes classes d'actifs pour l'épargnant traditionnel aujourd'hui. C'est les actions et les obligations. Sur les obligations, on le voit... un panel d'obligations d'entreprises correctes à 5 ans aujourd'hui donne du 4%. Donc, c'est pas inintéressant, une inflation qui on l'a dit tout à l'heure, vers 2, d'avoir quand même dans son patrimoine une partie d'obligations, soit en direct, soit via des fonds, soit en support euro. Enfin, en tout cas, c'est un placement qui a un intérêt aujourd'hui. Et c'était pas le cas pendant pas mal d'années, vous vous en souvenez, Cédric. Et puis, à côté de ça, bien sûr qu'il faut rester investi sur les actions. Parce que le gros danger des actions, c'est qu'à certains moments, les épargnants se disent « Tiens, je vais vendre ». Et alors, en général, c'est pas toujours au très bon moment, parce qu'en général, c'est des moments... Voilà,
c'est même souvent au
et, bon voilà. moment. Et alors là, les marchés d'actions sont hauts. Donc, si y a des volontés d'alléger ou de prendre des profits, pourquoi pas? Mais on sait bien que la grosse difficulté, c'est après d'y revenir. Parce qu'en général, bah, la tendance sur le long terme est haussière. Et moi, j'ai vu beaucoup d'épargnants qui ont vendu à 4 000, à 5 000, à 6 000, à 7 000 sur le CAC et qui ne sont jamais remontés dans le train. Et pour le coup, bah, ils voient des belles valeurs dans la durée qui augmentent régulièrement.
Et qui n'ont plus en portefeuille.
Voilà. Et qui n'ont plus envie d'acheter parce qu'ils les ont revendus moins cher. Mmh. Et ça les agace d'y revenir. Donc moi, je conseille quand même de garder une part de portefeuille actions importante sur du long terme. Ce qui ne veut pas dire que quand il se passe quelque chose d'inquiétant ou de mauvais sur une valeur, il ne faille pas réagir. Bien sûr, il faut réagir si on sent qu'une entreprise est durablement en difficulté et la virer de son portefeuille. Mais sinon, hormis ce cas-là, on a tout intérêt à garder les belles valeurs de son portefeuille très longtemps.
On a beaucoup parlé depuis maintenant plusieurs années presque des magnifiques, des superbes, etc. Enfin, de toutes ces très grandes valeurs, que ce soit aux États-Unis ou en France avec le luxe, etc. Et on a moins parlé des petites et moyennes capis qui sont aussi bien souvent des champions
dans leur
domaine, et dont on stigmatise toujours un peu la sous-capitalisation, etc., en disant qu'il va y avoir un rattrapage. Vous y croyez, vous ? Il faut s'intéresser aujourd'hui à cette typologie de valeurs, parce qu'on a quand même souvent plus accès à l'information, au management, y compris pour les analyses, pour les gérants.
Alors, d'abord, ces valeurs, elles ne sont pas si faciles que ça à choisir. Parce que si on a un accès facile aux dirigeants, en revanche, il y a assez peu d'analystes qui suivent ces valeurs-là. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que les analystes ont très souvent tendance à suivre les grandes valeurs, parce que c'est sur les grandes valeurs que les volumes sont le plus importants. Or, c'est quand même le courtage sur les valeurs qui, in fine, malgré les...
Et l'analyse.
Voilà. Bon. Même si on sait qu'on a dissocié ces deux choses, mais néanmoins, ça n'a pas généré cette dissociation d'intérêt majeur des analystes. Mmh. Donc, c'est des valeurs qui, tout de même, sont pas si simples que ça à suivre. Et alors, l'autre point, c'est que, si vous voulez, les petites sociétés comme ça, souvent, ont encore des besoins de financement pour développer leurs projets, pour investir, pour grandir, et que, pour l'instant, elles sont forcément pénalisées par le très haut niveau absolu des taux d'intérêt. Donc, tant que vous avez des taux d'intérêt élevés,
donc,
ça ne sert
BCE
pas...
Donc, vous suivez BCE pour se dire peut-être que...
Voilà. Vous voyez, c'est ouais. beaucoup plus facile pour une grande boîte très riche en cash. Alors, évidemment, beaucoup de gens pensent à Apple, mais il n'y a pas que Apple qui a beaucoup de cash, ou Microsoft, qui bénéficient de ces taux d'intérêt élevés et sont rémunérés sur leur trésorerie, que, bien sûr, pour des petites boîtes qui doivent ouais. investir, porter des projets, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment surveiller ça, comme vous le dites, l'évolution des taux d'intérêt, et que dans des phases de baisse des taux d'intérêt, là, on pourra à nouveau revenir sur des petites ou moyennes capitalisations. Pour l'instant, nous continuons à privilégier les grandes.
Juste un petit mot pour terminer sur la vie du marché aussi, qui parfois peut interpeller un épargnant. Quand on voit les questions autour de Total, par exemple, mais il n'y a pas que Total, hein. Il y a ouais. toutes les questions aussi autour des intros, autour... Voilà. Quand dans la vie du marché, on se dit, tiens, la cote parisienne pourrait, in fine, de plus en plus s'appauvrir si Total part aux États-Unis, mais on a aussi des dizaines de valeurs qui sont en fait cotées à Amsterdam. Alors, ça reste Euronext, certes, mais ça n'est plus la Bourse de Paris. L'homme de marché que vous êtes depuis longtemps, Marc, qu'est-ce qu'il se dit en voyant la cote parisienne peut-être un peu s'appauvrir?
Bah moi, je suis très triste de ça, parce que comme vous le dites, ça fait 35 ans que je travaille pas trop loin de la Bourse de Paris et toujours avec beaucoup d'estime et de proximité avec ces grands champions français qui sont cotés. Alors après, certains champions, vous le dites, sont cotés ailleurs. Bon, ça reste quand même des champions français, même s'ils ne sont pas cotés à Paris. Donc ça, c'est quand même une petite consolation. Mais c'est vrai que c'est très dommage de voir que des groupes comme ça se posent même la question d'aller se faire coter ailleurs. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail que peut faire Bercy et les autorités françaises pour que la place de Paris reste attractive et conserve à minima, voire même attire, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas, des valeurs de qualité. Il y a en France un marché de l'asset management qui est très riche, une épargne des Français qui est parmi les plus élevées du monde. Donc, il y a des capitaux en abondance.
Il faut qu'on ait les titres.
Voilà, et donc il faut qu'on ait, voilà, qu'on garde nos grands champions.
Merci Marc Riez, VegaIM sur Radio Patrimoine.
Merci.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Page immobilier, on parlera tiens dans un instant de société civile immobilière en accueillant une notaire, mais d'abord on va se pencher sur toutes les grandes questions qui sous-tendent un petit peu ce marché immobilier avec un des meilleurs spécialistes, Henri Buzicazo. Bonjour Henri.
Bonjour Cédric.
Président de l'ISMI, merci beaucoup
L'IMSI,
d'être...
L'IMSI en fait.
J'ai dit quoi ?
ISMI.
J'ai dit ISMI, non, IMSI, pardon. La conjoncture, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que ce marché immobilier, Henri, on a vraiment l'impression que ça va pas. On entend des crise du logement, crise du crédit, crise du finance. Enfin voilà, on n'entend pas beaucoup d'espoir. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous ?
Ah mais très sereinement, mais avec lucidité. L'inflation... des taux d'intérêt déséquilibré une équation qui doit se rééquilibrer. Et on a réalisé en même temps qu'il y avait deux autres grands sujets, pour simplifier. Les aides publiques vont être beaucoup moins au rendez-vous de l'histoire. Il n'y a plus d'argent public, voilà, pour simplifier. Et deuxièmement, il y a
Ça ne peut plus être open bar, nous a dit le ministre.
Non, hein. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'aide du tout, hein, mais elles sont beaucoup moins puissantes. Il va falloir apprendre à faire ça et elles vont être de moins en moins puissantes. Et puis, en dernier lieu, il y a la question de la mutation environnementale qui crée un certain nombre de contraintes qu'il faut accepter volontiers parce que ça ne sert pas à rien. Il faut lutter contre le dérèglement climatique. Mais voilà, on se retrouve avec une équation qui, au plan économique, au plan politique, au plan environnemental, est totalement déséquilibrée. Combien de temps il faut pour la rééquilibrer ? 2-3 ans. Voilà, bon, je dis les choses. Alors, quand je lis...
De toute façon, l'IMO, il faut l'avoir en tête, c'est du temps long. Ça
c'est du temps long, bien sûr.
D'un claquement de doigts.
Exactement. Ça ne veut pas dire que quand on a une baisse de 20-30 points de base des taux d'intérêt et que ça redonne un peu d'oxygène, On a coutume de dire que 20 points de base, 0,20, pour parler plus simplement, de taux d'intérêt, en moins ou en plus, ça fait 10 000 ménages, de plus ou de moins, qui entrent dans le crédit. Donc, ouais. C'est pas rien.
Non.
Bon. Mais soyons sérieux.
On peut avoir des petites embellies, des petites éclaircies, mais ça ne sera pas structurel sur le marché.
Exactement. Petites embellies aussi parce qu'il y a des choses qui sont extra-immobilières. C'est le moral général des ménages, les conflits géopolitiques, les conflits internes, les grèves, les tensions, etc. La situation, elle est très complexe. Eh bien, s'il y a une embellie, si à un moment donné, le moral des ménages, il est très observé par un certain nombre de vos confrères ou des grands organismes de sondage, on dit, tiens, tout d'un coup, les entreprises y croient davantage, les ménages aussi. Tant mieux. La toile de fond, c'est qu'on a 2-3 ans de réadaptation à une nouvelle équation. Et ça n'est pas une catastrophe. D'abord, c'est comme ça. Mais deuxièmement, parce que ça nous fait nous poser des questions qu'on ne s'était pas posées depuis 30 ou 40 ans. Sur un certain nombre d'actions politiques qu'il faut mener. J'entends le pouvoir public qui disent qu'il faut simplifier. J'espère que cette fois... Oui, ben oui, on a envie d'en sourire, mais bien sûr, il y a un projet de loi du ministre du Logement avec un certain nombre de choses. Il faut également s'intéresser au coût du foncier. C'est le cancer dans ce pays. Le terrain, le foncier, la matière première est hors de prix. Eh bien, on ne s'en est pas occupé. Ça a été un sujet de colloque. J'en ai fait, j'en ai organisé depuis 30 ans, 35 ans. Ça mérite mieux, une action publique. Voilà. Mais donc, la situation, c'est du moyen terme.
OK, mais une action publique, Henri, on a l'impression que, y compris ensemble, on en a commenté des démarrages d'action. On ne citera pas tous les colloques, mais voilà, des chocs de ceci, des chocs de cela.
D'offres.
Enfin, ouais, d'offres, de demandes, on ne sait plus trop. On a effectivement Kasbarian qui semble aussi avoir une feuille de route. Vous vous dites... Ça y est, on a pris la bonne mesure ou pas encore ? Enfin, la juste mesure, hein, pas forcément une seule.
Incontestablement, sur la conscience des lourdes difficultés du logement, pas que de la filière, les professionnels, c'est pas l'essentiel, c'est les ménages qui ont du mal à trouver l'acquisition, la location. La prise de conscience, elle était nulle il y a 2 ans, faible il y a 1 an, elle est réelle. Voilà, je dis. Et je suis très attentif, hein, comme vous, à tous ces signaux, parce que voilà, ça me tient à cœur, c'est justement ma raison d'être professionnel. Il y a un changement, je suis désolé, on ne peut pas ne pas le constater. Il n'y a pas d'hypocrisie. Après, l'hypocrisie, ça peut être de dire on va faire, mais en réalité on ne fait pas. Il faudrait qu'on mette des moyens financiers, on ne les met pas. Bon, c'est un deuxième sujet. Ce que je vois sur ces deux questions, financièrement... le pari, il devrait être fait un pari, ce serait un pari gagnant d'ailleurs, sur la relance du secteur, parce que c'est de l'apport en TVA, c'est de l'apport en droits de mutation à titre onéreux, toute taxe d'ailleurs, c'est de l'apport en emploi, ce pari n'est pas fait. Le ministre de l'économie ne le fait pas.
Mais c'est ce qu'on a dit pendant longtemps. Certes, ce secteur du logement a été sous perfusion depuis, on ne va pas rappeler tous les plans ministres et autres, mais ça rapportait plus que ça ne coûtait.
Il rapporte vite. Quand le ministre de l'économie dit « il me manque 10 milliards », moi je dis volontiers à vous, dans une émission comme celle-ci, mais moi je les ai trouvés. L'an dernier, les logements non construits ou les logements non achetés dans ce pays, puisqu'on a perdu en gros un tiers du volume des achats.
Ils n'ont pas rapporté combien ?
Eh bien, en TVA, on a perdu 5 milliards. En droit de mutation à titre onéreux, 4 milliards 8. Allez, on va dire 5 milliards pour faire de bonnes mesures. Les 10 milliards, moi, je les ai. Vous voyez ? Donc, ce pari, il ne sera pas fait. Donc ça, on va oublier. Mais je vois des choses qui, effectivement, ne sont pas nulles. Et notamment dans le projet de loi Kasbarian, qui va beaucoup évoluer. Hein. La copie, elle est présentée en Conseil des ministres dans quelques jours. Et après, elle part à l'Assemblée, au Sénat. Et ça va beaucoup bouger. Mais il y a des outils qu'on peut faire quand on parle de retoucher encore aux recours qui viennent empêcher de construire.
Les recours abusifs,
et ben
etc.
C'est bien. Ouais. Quand on dit qu'il faut peut-être des mesures autoritaires pour le coût du foncier et le prix au mètre carré pour que les promoteurs puissent construire moins cher, promoteurs ou promoteurs HLM. Les deux. Quand on dit il faut faciliter la parcellisation des terrains de maisons individuelles achetées il y a 10 ou 20 ans pour que des ménages puissent acheter. Je vois quantité de choses qu'on aurait dû faire, la densification, bien évidemment. Et moi, je prends ce qu'il faut prendre parce que nous entrons dans une période où les solutions, elles seront pas royales au bar, si vous me passez l'expression, elles seront minutieuses, additionnelles, interstitielles. Tout va être, va devoir être mis à contribution pour qu'on ait de nouveau un volume de construction, un volume de vente honorable, c'est-à-dire 450 000 logements par an construits et sans doute 900 ou 1 million de reventes par an. Sans ça, le pays ne respire pas.
Voilà une des parties de ce marché immobilier au sens le plus large. Il y a un autre facteur que l'on regarde et sur lequel on a pas mal glosé, ce sont les instits et plus singulièrement peut-être les SCPI, avec une question qui a été dans toutes les têtes, alors même que, autour des prix de part, etc., alors même que ça ne concernait quand même pas une grande majorité des SCPI. Comment vous les sentez, ces instituts? On a beaucoup compté sur eux, avec aussi là, des difficultés. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce monde des investisseurs institutionnels, des zinzins, comme on dit?
C'est un grand sujet. Quand le précédent ministre du Logement, il mise des Transports aujourd'hui, Patrice Vergritte, est arrivé en disant « je compte sur les investisseurs institutionnels ». Mais ce message, on l'avait entendu du président de la République aussi, hein, bon. Qui est sûrement plus familier de l'univers institutionnel que du retail. Quand on a entendu ça, on a souri, on a ri, on a dit « écoutez, alors franchement, ils sont partis à 30 ans, c'est pas pour revenir ». Ben écoutez, je ne pense pas ça. Je crois que, en effet, aujourd'hui, et aussi... Vous savez, il y a un peu de calcul chez les investisseurs institutionnels. On ne va pas leur reprocher. Ils calculent plus que les ménages. Les ménages sont plus dans le passionnel. C'est leur métier. Ils optimisent des patrimoines pour des gens comme nous, d'ailleurs. Hein, parce que derrière, il y a l'adossement de nos retraites, etc. Donc, si un assureur calcule la gestion de son patrimoine, moi, je ne l'en veux pas.
Mais non.
Eh bien, aujourd'hui, ils voient que les bureaux, c'est compliqué. On a des besoins en bureaux infiniment moindres. Il y a une dévalorisation. Les SCPI qui avaient beaucoup investi en bureaux, elles sont amenées à se repositionner. Elles sont agiles, elles font le job. Mais en attendant, c'est un sujet. Les commerces, ah oui, mais peut-être pas tous les mêmes. Est-ce que c'est des galeries commerciales? Est-ce que c'est du commerce de proximité? Le commerce électronique est venu prendre le pas. Il reste quoi? Une valeur extrêmement solide et sûre, c'est le résidentiel. Et donc, les zinzins, comme on dit... ils ne sont pas zinzins, ils ont de la raison.
Il faut qu'ils regardent le résidentiel.
Et ils le font, ouais. Ils sont en train de le faire. Voilà, je le dis très clairement, il y a des signaux, les SCPI se repositionnent là-dessus. On a vu l'accord passer par des grands assureurs avec l'État pour faire du logement intermédiaire. Ce n'est pas un gadget, rien ne les y obligeait. Ils font le job. Donc, oui,
ils font le calcul et ils y trouvent de la rentabilité.
Mais ils y trouvent de la rentabilité, ils y trouvent aussi de la raison d'être. Voilà, de la RSE aujourd'hui, ils ont besoin de dire, nous on est au rendez-vous de l'histoire du pays. Et ils sont là pour ça.
Juste pour terminer, Henri, un épargnant, un ménage français, quelle part dans son patrimoine doit-il accorder à l'immobilier? Que ce soit sa résidence principale, que ce soit de l'investissement locatif, que ce soit de la pierre-papier?
Majeur. Alors, majeur pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sécuriser, et ça, moi, je suis désolé, ça ne se discute pas, on pourrait en parler pendant une heure, j'aurai beaucoup d'arguments. Vous aussi. Il doit acheter sa résidence principale. Ça doit rester l'objectif de beaucoup de ménages, sauf certains qui sont hyper mobiles, pas stabilisés professionnellement, qui ont des carrières internationales. La plupart des ménages qui ont des vies, j'allais dire ordinaires, au bon sens du terme, ancrage, protection de l'avenir, actif à transmettre. Une notaire va s'exprimer chez vous tout à l'heure. Les notaires savent ce que c'est. On veut transmettre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à transmettre? Cet actif-là et protection de la retraite. Voilà, c'est quelques arguments très forts. Et lorsque on a investi, il faut faire des efforts pour acheter son logement ou ses logements successifs. C'est vrai que la part qui reste pour d'autres investissements, elle est faible. Et donc, la plupart des ménages, leur actif majeur, 70 ou 80 ou 90% de leur patrimoine, c'est le logement. Et s'ils doivent faire un investissement complémentaire, il faut qu'ils sachent le diversifier. Mais un investissement locatif, les besoins locatifs n'ont jamais été aussi importants.
Oui,
et pour les années qui viennent, il faut le faire. Et bien sûr qu'il faut aussi penser à de l'assurance vie. Il faut penser à des actions liquides.
Il faut se diversifier
liquides.
Aussi, il faut pas oublier l'immo.
Ah mais ça reste, et ce n'est pas juste un réflexe viscéral comme ça, mythique, mythologique. Il y a du fond. Ça doit rester l'essentiel de l'engagement et des efforts patrimoniaux d'un ménage. Et c'est ce qui se passe.
Merci beaucoup, Henri.
Merci,
Henri Buzicazo dans Cœur de patrimoine. Merci.
J'ai parlé avec cœur.
Mais comme à chaque fois. À très vite.
Merci.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on poursuit donc ces thématiques immobilières et on va parler de ces trois lettres, S, C, I, grâce à Clarisse Josse. Bonjour Clarisse.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, vous êtes notaire à Paris. Trois lettres que beaucoup d'épargnants ont en tête, cette société civile immobilière. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, pour pas forcément rentrer dans une définition juridique trop complexe, une société civile immobilière, c'est une personne morale, qui a un nom, qui a une adresse, qui s'appelle le siège social. Elle a une durée de vie, ça peut être un an, ça peut aller jusqu'à 99 ans. Et elle peut être propriétaire surtout de biens immobiliers. Et elle va gérer ces biens-là. Alors elle-même ne peut pas gérer seule ces biens-là, bien entendu. Il faut des personnes comme vous et moi derrière. Ces personnes s'appellent les associés. Mmh. Il peut y avoir au minimum deux associés, mais il peut y avoir beaucoup d'associés. Et puis ces associés-là, ce sont eux qui vont en fait financer les biens immobiliers. Et à côté de cela, il y a des gérants. Les gérants, c'est eux qui, au jour le jour, vont gérer les biens immobiliers. Et puis la particularité de la SCI, c'est que on peut mettre des règles du jeu, les règles du jeu que l'on veut, presque tout ce que l'on veut, il y a quelques limites bien sûr. Et ça
donc
fait,
on peut vraiment la ciseler entre guillemets à sa main.
Oui, c'est l'intérêt même de la SCI. Souvent on parle de la SCI en opposition à une absence de SCI lorsqu'on détient un bien immobilier. Lorsqu'on détient un bien immobilier, si vous et moi on détient un bien immobilier, on est propriétaire de ce bien-là. Et si on est plusieurs à détenir ce bien, pour gérer les accords, les désaccords, les droits de chacun, c'est la loi qui va s'appliquer, c'est le code civil, c'est les règles d'indivision. Ces règles d'indivision sont parfois vues comme un petit peu contraignante, et la SCI peut être un outil parmi tant d'autres, mais en tout cas c'est un outil intéressant pour mettre des règles du jeu qu'on a décidé ensemble, parce qu'on avait envie de s'associer ensemble dans ce projet.
Donc du coup, pourquoi créer une SCI finalement ? Parce que comme vous le dites, il y a on va dire le régime commun qui nous permettrait, si on a envie de s'acheter entre copains, une résidence de vacances ou un appart au ski ou...
Alors c'est une très bonne question.
Ou en famille, garder la maison familiale ou des choses comme ça.
C'est une très bonne question. C'est une question qu'il faut se poser. Moi, je pense que la première des choses, c'est se demander quel est l'objectif recherché lorsqu'on détient un bien immobilier ou lorsque l'on va acquérir un bien immobilier. Moi, j'ai régulièrement des clients qui viennent me voir à l'étude en me disant « Je veux une SCI parce que mon copain, parce que mes beaux-parents ont fait une SCI. »
Sans même... Je veux la mienne aussi.
C'est un petit peu ça, ouais. Effectivement. On met en place une SCI, par exemple, lorsque l'objectif, ça va être de faciliter un bien à plusieurs. Là, moi, je trouve que c'est un outil qui est intéressant parce que comme on met les règles du jeu qu'on veut, par exemple, on peut très bien décider qu'on détient un bien à plusieurs à travers une SCI et que pour la vendre, la vente se fera, par exemple, à la majorité. Si le bien n'est pas acquis en SCI, mais que le bien est acquis, ce que moi j'appelle en direct, pour vendre, on est dans les règles de l'indivision et l'indivision prévoit qu'il faut l'unanimité pour vendre. Donc, par exemple, l'un des objectifs de la SCI, ça va être de pallier l'indivision. Un autre objectif de la SCI, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on est plusieurs copains, on achète ensemble, on veut mettre en place des règles du jeu, majorité ou pas pour vendre, pour gérer, pour louer. On peut décider qui viendra, quand, à quelle période de l'année. Puis surtout, aujourd'hui, on est peut-être trois...
Que ce soit pas toujours les mêmes qu'il y a 15 autres, quoi.
Exactement. Aujourd'hui, on est trois copains, mais c'est une maison qu'on adore et avec laquelle nos enfants vont y venir aussi tous les étés. Aujourd'hui, on est trois. Demain, on sera peut-être 10, on sera peut-être 15. Et gérer une indivision à 15, c'est très compliqué. Alors que par le biais d'une SCI, c'est plus facile, j'ai envie de dire.
Alors bon, on a posé un petit peu le cadre de cette société civile immobilière. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut détenir ou qu'est-ce qu'il est avantageux de détenir ? Parce que on sait qu'une vie immobilière, elle a plusieurs entre guillemets facettes. On a sa résidence principale, on a sa résidence secondaire, on a peut-être de l'investissement locatif en meublé ou en non meublé. Enfin, tout peut rentrer, on va dire, dans une SCI où il y a des moments où il vaut peut-être mieux éviter et où c'est pas le schéma, on va dire, patrimonial le plus recommandé.
Alors. C'est une question intéressante et c'est une question qui est compliquée pour nous, notaires, avocats, experts comptables. Une SCI, c'est jamais blanc ou noir. La SCI, elle peut être très intéressante en 2024, elle peut l'être beaucoup moins dans 10 ans, parce qu'il ne faut pas uniquement prendre en compte l'objectif le jour où on achète, il faut aussi se projeter à long terme dans le bien. Par exemple, on achète un bien qui est aujourd'hui sa résidence principale. Peut-être qu'à terme, cette résidence principale va devenir une résidence secondaire. Peut-être qu'un jour, on va vouloir faire de la location meublée quelques mois par an, quelques semaines. Et en fonction de tous ces objectifs-là, il va y avoir des conséquences importantes sur la SCI. J'ai régulièrement des clients qui viennent me voir, surtout en ce moment avec les Jeux Olympiques, et qui me disent, voilà, moi, j'ai mon appart, je veux acheter un appart, mon résidence principale, mais je veux aussi pouvoir faire de la location meublée dedans. Je peux le faire dans la limite des 120 jours, mais j'ai envie de passer par une SCI. C'est intelligent ou pas ? C'est pas inintelligent, mais il faut se poser des questions, puisque si on détient un bien immobilier qui fait de la location meublée, qui donc est une activité commerciale à travers une SCI, bah, la SCI passe à l'impôt sur les sociétés avec toutes les conséquences que ça va engendrer. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais il faut avoir conscience que dans ces cas-là, si c'est... a priori, sa résidence principale, si elle est à l'impôt sur les sociétés, bah, si on revend, on n'a pas l'exonération pour résidence principale, pour l'impôt sur les plus-values. Si on est à l'impôt sur la fortune, on n'a pas l'abattement de 30%. Si on fait des bénéfices, ces bénéfices sont à l'impôt sur les sociétés. Si on sort ces bénéfices, on a de nouveau l'impôt sur les dividendes. Donc là, les gens me disent, ah ben non, c'est principalement ma résidence principale. Je ne veux pas avoir tous ces inconvénients-là. Je ne veux pas non plus devoir payer un loyer, parce que si la société est à l'impôt sur les sociétés, il faut se verser. Hein, il faut verser un loyer à la société qui est propriétaire.
Eh oui.
À l'inverse, j'ai d'autres clients qui me disent, moi, l'objectif, c'est de faire de la location meublée. Je ne veux pas être matraqué en impôt sur le revenu. Je veux au contraire capitaliser mes revenus. Je veux pouvoir bénéficier d'un taux d'impôt sur les sociétés qui aujourd'hui a baissé en plus ces dernières années, qui peut être plus bas que l'impôt sur le revenu. Là, ça a du sens. C'est vraiment au cas par cas.
Vous nous avez dit tout à l'heure, il faut aussi penser à long terme, parce qu'on sera deux, trois ou quatre, on sera peut-être 10, etc. Si on va un peu plus loin, il y a un moment où, à part quelques mystiques, il faut transmettre. On transmet facilement un bien ou des parts de SCI. Comment ça se passe au moment de la transmission?
Alors, la création d'une SCI est souvent, l'objectif souvent de la création d'une SCI, c'est d'anticiper la transmission. Je vais répondre à votre question, mais avant, c'est important aussi, la SCI, c'est un outil qui est régulièrement utilisé par les parents lorsqu'ils veulent transmettre à des enfants qui sont jeunes ou lorsqu'il y a plusieurs enfants. L'intérêt de la SCI, c'est qu'on peut séparer l'avoir du pouvoir. On peut très bien, enfant, détenir des parts sociales et donc être propriétaire indirectement d'un bien immobilier et pour autant avoir les pieds et mains lié parce que le pouvoir, la gestion quotidienne du bien reste entre les mains des parents qui sont gérants de la société.
D'accord.
Puisque dans les statuts, on a une liberté quasi totale, on peut très bien dire aux enfants, on anticipe la transmission, vous en êtes propriétaire de notre vivant, mais tant qu'on est là, c'est nous qui prenons toutes les décisions. Louer, on décide, vendre, on décide, se répartir l'argent, on décide. Ça, c'est la première des choses. Après, lorsqu'on détient un bien immobilier à travers une SCI, lorsqu'on veut transmettre les parts sociales, oui, c'est vrai, les frais peuvent être moindres que si l'on transmet directement l'immobilier.
Oui.
Alors, pourquoi ? Pour des raisons très concrètes, lorsqu'on transmet des parts sociales, il faut passer chez le notaire, mais dans les frais, il n'y a pas de taxe de publicité foncière, puisque les parts sociales ne s'enregistrent pas au registre foncier. Donc c'est déjà une économie certaine. La rémunération du notaire, qui s'appelle l'émolument, elle va être calculée sur la valeur nette des parts sociales, et non pas sur la valeur de l'immobilier, comme c'est le cas lorsqu'on transmet de l'immobilier, même s'il y a un emprunt. Mmh. Ça signifie que si votre société elle a un bien qui vaut 100 avec une dette de 60, on va calculer les frais de notaire sur le différentiel entre les deux, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on détient le bien en direct. Et puis souvent, ce qu'on dit aussi, alors pour une donation, il faut passer par le notaire, mais dans le cadre de cession de parts sociales, lorsqu'on vend par exemple des parts sociales, c'est un petit peu plus fluide que lorsqu'on transmet de l'immobilier, puisque c'est plus simple.
Donc il y a des petits avantages quand même.
Il y a des petits avantages.
La transmission comme
exactement,
ça.
Exactement.
Soyons pratiques aussi, c'est facile de créer une SCI, on trouve les statuts sur internet, c'est gratuit, comment on fait pour créer une SCI ?
Alors, oui, c'est facile, mais c'est pas facile en même temps. C'est facile dans un absolu, puisque on peut trouver des statuts sur Internet, on peut.
Je vais vous tendre la perche. C'est facile de faire des bêtises, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Puisque, en fait, parfois, quand le champ des possibles est très large, c'est là où on peut se tromper, on peut prendre les mauvaises décisions, et une fois que les statuts. On peut toujours changer les statuts, mais lorsque les désaccords arrivent, ou lorsque les transmissions de départ arrivent, si les statuts n'ont pas bien été anticipés, anticipé en amont, c'est là où ça peut devenir compliqué. Donc, en soi, c'est rapide de mettre en place une SCI. C'est souvent une question qu'on me pose lorsque on a trouvé le bien de ses rêves, mm-hmm. on a fait une offre, et là, on se dit peut-être qu'il faudrait mettre en place une SCI. Ouais. Comment on fait ? Il faut aller vite, il faut monter un prêt. Pas de stress. Vous trouvez votre bien, vous faites votre offre, vous allez voir votre notaire pour signer la promesse de vente, vous signez la promesse de vente avec une clause de substitution, et entre la promesse de vente et la vente définitive, on monte tranquillement votre SCI, rapidement, parce que la banque a besoin des statuts et du CABIS pour pouvoir monter le prêt, mais pour le faire presque tous les jours, à partir du moment où les statuts sont ficelés, il faut 4-5 jours pour avoir un CABIS et une société
immatriculée. Je vais faire votre réclame, mettre quelques euros chez son notaire pour rédiger ses propres statuts avec tout ce qu'on s'est dit avant, de « je veux penser à ci, je veux penser à ça », plutôt que de choper des statuts types et de mettre son nom en haut, en bas.
Oui, parce que nous, on ne va pas prendre des statuts types, on va forcément poser la question. Toutes les questions qu'on vient de se poser en amont ensemble, on va les revoir avec le client.
Vous nous avez dit au début, ça peut durer de 1 à 99 ans. Bon, si au départ, j'ai mis dans les statuts 99 ans et puis que finalement, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en ai assez, je veux plus de ma SCI, je suis obligé de la supporter encore pendant 89 ans ou je peux la supprimer, la dissoudre, la fermer, enfin je ne sais pas comment on dit d'ailleurs.
Oui, on peut dissoudre, on peut liquider une SCI. Il ne faut pas se dire, lorsqu'on crée une SCI, je crée une SCI et dans 6 mois, si ça ne va pas, j'y mettrai fin. Parce que mettre fin à une SCI, ça génère des coûts supplémentaires, notamment lorsqu'il y a un bien immobilier à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que le propriétaire, c'est la SCI. Donc si on sort le bien de la SCI, on change de propriétaire. Donc on repasse chez le notaire, on repaie des frais. Et exactement. Dans un absolu, c'est possible. Souvent, ce qu'on préconise quand même, c'est de essayer de gérer à l'intérieur le bien. On vend le bien et puis après, on essaie de sortir les liquidités. Et puis lorsqu'il n'y a plus rien dans la société, on y met fin. Mais c'est possible. Il faut faire une liquidation partage de la SCI.
Eh bien, on en sait un petit peu plus grâce à vous, Clarisse Josse, sur cette SCI. Merci d'être venue dans Cœur de Patrimoine. On continue à vous accompagner ce matin sur toutes les thématiques de vos placements.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
On vous accompagne ce matin, comme chaque mercredi, dans le monde de votre patrimoine, ces cœurs de patrimoine. Et on va tenter de vous donner, ce matin, une envie ou une idée d'investissement. Et on accueille Louis de Montalembert. Bonjour Louis.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour Pléiade AM. Et on va parler d'un thème d'investissement, un mot que tout le monde prononce quasiment maintenant, facilement, c'est le cloud. D'abord, on peut commencer peut-être par un petit état des lieux. De quoi on parle quand on parle de cloud? Et qu'on se dit thème d'investissement, c'est-à-dire c'est Apple et son e-cloud, c'est Amazon et AWS, c'est quoi exactement?
Alors le cloud, c'est avant tout une infrastructure. Donc quand on parle du cloud, les gens pensent à l'infrastructure et c'est une infrastructure qui est dominée par 3 acteurs. Parce qu'à l'origine, en fait, le cloud, ce sont des grands acteurs d'Internet qui ont développé un réseau data center dans le monde avec une couche opérative pour leurs propres opérations. Et en 2010, ils ont ouvert ça à des acteurs tiers. Mais donc, à l'origine, si vous regardez que l'infrastructure, il y a 3 acteurs qui ont 70% du marché. C'est Azure avec Microsoft, Google Cloud et évidemment AWS de Amazon. Donc, c'est pas là qu'on a la thèse d'investissement puisque ça, ce sont des entreprises protéiformes. C'est plutôt dans tout ce que j'appellerais la superstructure du cloud, qui sont les logiciels en SaaS, qu'on trouve une vraie thèse d'investissement.
Oui, parce que en fait, ce cloud, il a permis un développement extraordinaire de ce fameux SaaS.
Voilà, exactement. Alors, avant, on consommait le logiciel sous forme d'installation, on dit on-premise, c'est-à-dire dans l'entreprise, dans les serveurs, et aujourd'hui, vous accédez à travers Internet dans une fenêtre. En fait, l'ancêtre, c'est Salesforce. Hein. Tout le monde connaît ce type de logiciel qu'on utilise aujourd'hui directement sur le net de à peu près n'importe où. Et donc, il y a eu ce développement exponentiel de l'industrie du logiciel. D'abord, une transformation des acteurs existants et puis la naissance d'acteurs cloud native et surtout l'invasion du logiciel dans des interstices de l'économie où il n'était pas présent. L'exemple le plus simple, c'est peut-être DocuSign que vous connaissez. Enfin, plus personne ne signe un document papier, sauf quand c'est une banque qui vous envoie ça. Mais de manière générale, on ne signe plus de documents papier, on fait DocuSign. Bon, bah, en fait, ça a permis au logiciel vraiment de s'insinuer absolument partout. Et ça permet, par exemple, à une entreprise comme Stellantis, qui fait des voitures, de dire qu'à l'horizon 2030, elle fera 20 milliards de chiffre d'affaires par le logiciel. Et donc, comment est-ce qu'elle peut faire 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires récurrent en logiciel? C'est grâce au cloud. Mais ça va jusqu'à une entreprise américaine qui n'est pas cotée, celle-ci, mais qui fait déjà près de 200 millions de revenus récurrents, qui s'appelle Sense, qui est le cloud pour les lavomatiques. On ne peut pas imaginer plus loin de la technologie quand on parle du cloud des lavomatiques. Et pour autant, quand vous branchez sur le cloud une machine à laver, ça permet à l'opérateur de savoir où est-ce qu'il en est de ses maintenances prédictives, où est-ce qu'il en est de ses consommables, de fournir un moyen de paiement à ses clients. Hein. On n'est plus dans la piécette, oui, on est dans la fente. Oui. De fournir une app à ses clients qui peuvent retenir un lave-linge, savoir où est-ce qu'ils en sont du cycle de lavage, alimenter sa comptabilité. En fait, le cloud permet de digitaliser toutes sortes de business models. Et juste un dernier point, Sense que je viens de décrire, c'est Doctolib. Doctolib, c'est la même chose. Pour les praticiens de santé, automatiser les prises de rendez-vous, l'assurance maladie, etc.
Ça veut dire que, enfin, je vais faire un petit peu le neuneu de service, mais ça veut dire que dès qu'il y a une app pour ça, c'est qu'on est dans ce cloud, dans ce SaaS, dans ce...
Tout à fait. Alors moi, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est vraiment le cloud B2B. Parce qu'aujourd'hui,
je le schématisais.
Mais ça passe par là. Le cloud B2B, aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle vague de digitalisation des entreprises. On est à moins de 20% aujourd'hui de pénétration du cloud dans l'IT des entreprises au niveau mondial. Et donc, il y a des gains de productivité absolument faramineux parce que le cloud est de manière générale plus flexible, moins cher, propose plus de fonctionnalités que des applicatifs qu'on appelle legacy, c'est-à-dire à l'ancienne. Et donc, on est dans une pénétration attendue par Gartner qui devrait atteindre 36% à horizon 2030. Ça fait à peu près 17% de croissance par an de cette vague de digitalisation de l'entreprise.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'investisseur, entre guillemets, de voir certains se cacher, enfin faire du faux cloud, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme certains ont dit qu'ils faisaient de l'ESG ou de l'ISR alors qu'ils en faisaient pas vraiment. Que on se souvient tous de la vague des dot-com où il suffisait de prendre n'importe quel projet et de lui coller dot-com pour que ça fasse des miracles en bourse. Il n'y a pas ce risque de voir une boîte dire bah si maintenant je suis dans le cloud et du coup
alors ils peuvent toujours le
décevoir
dire.
Entre guillemets.
Ils peuvent toujours le dire. Mais enfin, ça se mesure parce que le cloud, c'est vraiment pour le client la capacité à accéder à un logiciel de n'importe où. Et donc, on voit beaucoup d'acteurs dits legacy. Je pense à SAP, qui est un géant du logiciel, pour le coup, a une vraie stratégie de passer sur le cloud. Et ils sont presque à 50% de leur chiffre d'affaires. En fait, on le voit dans la récurrence du chiffre d'affaires. Ils sont presque à 50% sur le cloud. Donc, c'est une vraie réussite. En revanche, un Dassault Systèmes, c'est une part beaucoup plus infime de son chiffre d'affaires. Après, vous avez dans les gens qui se clament cloud, vous avez effectivement OVH Cloud. Mais on peut se poser des questions de savoir si ce n'est pas juste du data center, c'est-à-dire du stockage de données et du cloud. Mais de manière générale, dans le logiciel, on ne peut pas tromper son monde. Okay. Mais il faut mieux s'intéresser à des acteurs montants qu'on appelle cloud native, c'est-à-dire qui ont été fabriqués sur le cloud, plutôt que des acteurs qui sont en transition, même si je trouve que SAP est une boîte très intéressante.
Et du coup, ça rime, ça doit rimer, ça rimera, c'est imbriqué avec l'IA, avec tout ce qui touche à ChatGPT et...
Alors, c'est mieux que rimer, c'est que c'est l'avenir, le cloud de l'IA générative. C'est-à-dire que on comprend que le cloud est une infrastructure mature et c'est le canal de diffusion. Aujourd'hui, si vous utilisez ChatGPT, vous passez par le cloud. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas votre usage de ChatGPT, c'est le fait que la diffusion de l'IA générative se fera par le logiciel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un logiciel ? C'est jamais qu'une interface homme-machine. Et l'IA générative, c'est l'outil ultime pour automatiser un certain nombre d'actions de l'homme dans le logiciel. Et donc, comme tout le jeu du logiciel, pourquoi est-ce qu'une entreprise achète un logiciel ? C'est pour son retour sur investissement. C'est parce qu'elle fait des gains de productivité. Le logiciel cloud native permet encore plus de gains de productivité. Et l'IA générative, c'est encore l'outil qui permet d'ajouter encore des gains de productivité. En fait, je vous donne un exemple. Sur le codage, aujourd'hui, on estime que les outils de codage, GitHub ou GitLab, qui sont des outils cloud, permettent de réduire ou des gains de productivité de l'ordre de 40% pour des codeurs. Oui. C'est-à-dire de proposer du code automatique, des corrections automatiques, de traduire des pages entières de code en langage naturel, ce qui permet de passer du code d'un développeur à un autre sans qu'il ait à relire toutes ce langage cryptique. Donc, des gains de 40%. Donc, ça veut dire que forcément, je veux avoir de l'IA générative dans mon outil logiciel.
Et toutes ces boîtes qui émergent, qui se développent, qui grandissent dans ce monde-là, on les trouve chez nous, on les trouve encore une fois essentiellement aux États-Unis. Comment est-ce qu'on... Ça demande quand même une certaine connaissance fine, j'imagine.
J'adorerais vous dire qu'elles sont toutes françaises, mais ce n'est pas vrai. Okay, aujourd'hui, on les trouve essentiellement aux États-Unis. C'est là que vous avez d'abord eu les acteurs de l'infrastructure. Vous avez des grands acteurs du logiciel. Alors, il y a des champions français qui se battent, mais un peu à la française. On a vu la cotation de Planisware. Planisware, c'est une boîte ultra rentable, mais qui fait que 150 millions de dollars de chiffre d'affaires et croît qu'à 18%. Les acteurs américains ont cette vraie culture de la conquête. Or, ce sont des marchés à conquérir. Je vous donne un exemple. Une entreprise française américaine qui s'appelle Snowflake, qui a été fondée par des Français aux États-Unis, faisait que 97 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018, a fait 2,8 milliards l'année dernière. Ils n'ont pas cherché à être rentables des 150 millions, ils ont cherché à conquérir 5 ans pour passer de presque 100 millions de dollars à 2,8 milliards. Donc c'est forcément là, dans la conquête de l'Ouest, les gens qui ont cette culture-là, qu'on trouve les entreprises les plus dynamiques.
Donc, on fouille à Wall Street, on fouille dans le Nasdaq. Ouais.
Alors, c'est une thématique qui a été un peu délaissée en début d'année parce qu'on est dans l'instant hardware de l'IA générative. Aujourd'hui, c'est l'IA générative qui capte toute la lumière et donc tous les flux les semi-conducteurs, pardon, qui captent tout le flux sur l'IA générative. Pour nous, ça n'aura qu'un temps puisque c'est de l'équipement. Il faut se souvenir que les 4 principaux clients, premier client de NVIDIA, représentent 50% de son chiffre d'affaires. C'est de l'équipement. Mais la phase de diffusion de l'IA générative, c'est véritablement le logiciel. Le moment où vous et nous, on va l'utiliser, c'est à l'intérieur des logiciels qu'on utilise au quotidien. Mais ça met un peu plus de temps à se voir puisqu'on est sur une thématique de chiffre d'affaires récurrent. Il faut savoir que c'est de l'abonnement, donc c'est 100% récurrent avec très peu d'attrition. Et par conséquent, les points d'inflexion sont beaucoup moins brutaux que, comme on peut le voir dans les semi-conducteurs, où tout d'un coup, il y a une grande phase d'équipement.
Il y en a beaucoup, et puis d'un seul coup, il n'y en aura plus.
Voilà, mais au deuxième semestre, on va commencer à avoir de l'impact sur les chiffres d'affaires. 2025, ça va être beaucoup plus visible. Donc, c'est vraiment une thématique d'avenir avec des entreprises en général qui sont dotées de trésoreries nettes absolument pléthoriques, qui génèrent du cash parce que c'est des abonnements payés d'avance. Donc, c'est vraiment en termes de sûreté et de prise de risque, c'est très mitigé.
Eh bien, voilà une idée peut-être pour booster vos investissements dans ce monde action. Merci beaucoup, Louis, de nous avoir fait voyager un petit peu dans ce cloud en nous initiant, au bon sens du terme, sur ces quelques données qui sont parfois un petit peu loin, effectivement, de notre monde commun. Merci et à très bientôt.
Je vous en prie.
Sur Radio Patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Vous en avez l'habitude, Cœur de Patrimoine vous emmène dans un maximum de thématiques d'investissement et il en est une que vous connaissez peut-être moins et qu'on va explorer aujourd'hui, c'est celle du marché de l'art grâce à Arnaud Dubois. Bonjour Arnaud.
Bonjour Cédric Decoeur.
Merci d'être présent dans Cœur de Patrimoine, cofondateur de Matisse. On va rentrer dans le détail de votre proposition, bien sûr, mais d'abord peut-être disons un petit mot justement de ce marché de l'art. Comment il se caractérise en fait ?
Alors c'est une très bonne question. Je m'en suis rendu compte assez vite et tous les gens qui s'intéressent à ce métier s'en sont rendus compte assez rapidement dès qu'ils ont pu l'expérimenter. Je crois que le marché de l'art, ça se caractérise par son opacité et son manque de régulation. Oui, c'est une réalité. Il se trouve que nous, notre activité, elle a consisté immédiatement à lui donner de la visibilité, lui donner de la régulation et lui donner de la transparence, avec l'idée qu'un marché qui se régule et transparent est un marché en croissance.
Alors voilà donc pour une première observation. Du coup, votre offre, Matisse, M-A-T-I-S, qu'est-ce que c'est ?
Alors Matisse.club, c'est une société d'investissement qui organise des club deals autour d'artistes, d'œuvres d'artistes fondamentaux du XXe siècle. Alors des artistes que vous connaissez nécessairement, j'en passe les meilleurs, c'est Warhol, Soulages, Dubuffet, Yves Klein, Les Lalanne, etc. L'ambition, elle est de donner à des investisseurs particuliers la possibilité de se positionner sur un marché où ce marché, il faut au moins trois, j'allais dire au moins deux compétences et une caractéristique financière forte, c'est qu'il faut de l'argent. C'est incontestable.
Vu les noms que vous avez cités.
Oui, oui, il faut de l'argent.
On comprend.
Il faut de l'expertise et il faut du réseau. Notre métier consiste à apporter de l'expertise. Il est évidemment organisé autour d'un réseau qui est très profond et qui est international. Et les club deals que nous organisons sont accessibles à partir de 20 000 euros pour des clients investisseurs. Donc, un client avec 100 000 euros, il peut s'offrir un bout de Warhol, de Picasso, de Soulages, etc.
Un bout, c'est-à-dire qu'on le découpe ?
Alors, c'est effectivement la titrisation. On a un agrément, on est la première société européenne à avoir un agrément PSFP, donc délivré par l'AMF. Hein. Encore une fois, j'attire votre attention sur ce point précis, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et effectivement, on a titrisé des œuvres. Donc, les œuvres sont achetées. Il y a une société, un véhicule, un club deal, qu'on appelle dans le jargon... donc c'est l'agrément PSFP qui nous permet de créer des SPV et ces SPV accueillent une œuvre d'art et chaque œuvre d'art ensuite on émet des obligations et chaque on va dire co-investisseur peut à partir de 20 000 euros souscrire à une obligation d'un tableau de Warhol.
Alors parfois quand on parle de ces investissements un petit peu dans les biens divers, dans les biens plaisir, etc., il y a cette grande composante finalement du plaisir. Alors quand c'est le monde du vin, c'est de pouvoir peut-être acheter 6 flacons d'un grand château et grâce à la revente de 5 des cols en bénéficier d'un pour soi. Parfois de pouvoir s'offrir une œuvre d'art.
C'est vrai.
Bon, mais là, qu'est-ce qu'on a ? On a une capture d'écran ?
C'est
on a...
vrai.
Parce que là, on la voit pas, cette œuvre. Si, comment ça se passe exactement ?
C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai, et pour ça, je vais dire, l'offre, elle existe déjà, puisqu'il y a des galeristes. Il y a des sociétés de vente aux enchères où des clients peuvent acheter des œuvres d'art pour des raisons artistiques, intellectuelles, et se faire plaisir en dépensant leur argent, en achetant des tableaux avec lesquels ils vont vivre. Et c'est formidable, ça existe depuis toujours et ça continuera d'exister.
Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde.
C'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est surtout pas l'offre qu'on a voulu créer. Nous, on a véritablement voulu créer une offre pour des clients qui sont... investisseurs. Les œuvres d'art, elles sont achetées pour des raisons artistiques, mais aussi pour des raisons sociales et des raisons financières. Et le marché de l'art était un peu exclusivement réservé à des investisseurs professionnels. Et les investisseurs professionnels dans ce marché, c'est le galeriste, c'est le marchand, qui lui apporte de l'expertise, mais il immobilise aussi sa trésorerie pour acheter des œuvres et vous les revendre. Nous, notre métier, il a consisté à donner une expertise de professionnel à des clients particuliers.
C'est-à-dire... Le but, c'est pas de détenir une œuvre, c'est de profiter financièrement de la croissance du marché de l'art, des performances du marché de l'art, que lorsqu'on entend que tel type de tableau s'est vendu avec une plus-value énorme, finalement, d'en capter une part.
C'est
en étant capable d'intervenir sur ce monde.
C'est exactement ça, avec une subtilité peut-être, c'est que on va moins parier sur la croissance, c'est-à-dire l'augmentation naturelle du prix de l'œuvre de l'artiste sur lequel on va se positionner, mais plutôt d'essayer de battre le marché à l'acquisition. Notre boulot consiste à acheter dans les meilleures conditions possibles des artistes fondamentaux du XXe siècle et de les proposer à des clients investisseurs qui, eux, si vous voulez, une fois qu'ils ont mis 100 000 euros et qu'ils ont mis 5 fois 20 000 euros sur 5 œuvres, les pièces, elles vont chez les galeristes. Les pièces, elles vont chez les marchands.
Elles sont destinées à être revendues.
Elles sont destinées à être revendues. Alors, si vous voulez voir votre pièce, c'est tout à fait possible. L'œuvre, elle existe, c'est physique. Vous allez chez le galeriste. Alors, le galeriste, il se trouve qu'il est peut-être à Hong Kong, il est peut-être à New York, il est peut-être à Stuttgart, il est peut-être à Paris, à Londres, etc. Mais l'œuvre va se balader en fonction des grandes expositions et les galeries qui sont sélectionnées pour leur capacité à revendre dans les meilleures conditions possibles les œuvres sélectionnées pour nos clients.
Alors, justement, je vais être vulgaire. À quel titre, à quel type de performance performance on peut s'attendre du coup grâce à l'offre ciselée par Matisse?
C'est pas vulgaire, c'est l'objectif de nos clients. Ils nous sollicitent, en tout cas ils viennent pour des raisons financières, ils restent peut-être pour d'autres raisons, on l'espère pour nous. Le marché de l'art globalement, en tout cas celui qui nous intéresse, le marché du 20e siècle, si vous me permettez Cédric de revenir un tout petit peu sur la typologie, la segmentation de marché. Donc le marché de l'art, c'est d'abord un marché qui est beaucoup plus démocratique qu'on y pense. C'est-à-dire que c'est un marché sur lequel 78% des œuvres s'échangent à moins de 1 000 $. 94% des œuvres s'échangent à moins de 50 000 $. Mais comme Pareto existe dans tous les marchés, eh bien c'est 94% d'œuvres qui existent sur un marché de l'art mondial et qui sont échangées en volume ne représentent que 10% du marché de l'art en valeur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 1% au-dessus d'un million. Alors, au-dessus d'un million, c'est un grand mot. En réalité, on regarde des pièces à partir de 400-500 000 euros jusqu'à 4-5 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que c'est le vente, c'est le gros vent du marché de l'art. Vous avez beaucoup plus de clients qui sont d'accord de mettre 1,5 million sur un tableau de Warhol que de gens qui préfèrent mettre 1 000 euros sur un artiste qui est inconnu. D'accord. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Notre enjeu, vraiment, il est de donner la possibilité à ces clients particuliers d'avoir accès à ce marché qui leur est totalement impossible.
Et, du coup, donc c'est une expérience essentiellement donc, d'investissement avec une connotation artistique, si je résume.
Oui, 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 et avec des rendements... je fais ça depuis plus de 10 ans. Là, on a opéré 2 sorties depuis novembre. Les 2 sorties dernières qui ont été faites ont généré des TRI. Alors, le premier à 110% net de carry, c'est-à-dire net de frais, et le deuxième, je crois, à 42%. Alors, c'est des chiffres qui font rêver, c'est sûr. L'objectif qui est le nôtre, c'est d'aller rechercher des transactions avec des rentabilités à 2 chiffres et des durées de détention moyennes entre 1 et 3 ans.
Concrètement, comment ça se passe si demain j'ai envie d'avoir une part d'un Picasso et que je fais appel à vous?
Alors d'abord, ça se passe bien. Ensuite, vous allez sur le site matisse.club. Vous faites onboarder par notre équipe commerciale. Vous échangez pour comprendre des objectifs, encore une fois, précis du client. Et puis, si vous avez envie de vous positionner, on vous présentera du deal flow. L'idée, c'est d'avoir toujours un produit sur l'étagère. C'est-à-dire que le marché de l'art, c'est un marché d'opportunités. Nous, on va avoir pour objectif d'en sourcer à peu près 50 durant l'année 2024. C'est quasiment un deal par semaine. Donc, une fois par semaine, vous avez la possibilité d'avoir accès à un deal compris entre 500 000 et 5 millions d'euros et à travers un bulletin de souscription, mais tel que vous avez l'habitude de le faire à travers votre SCPI ou votre private equity. Vous voyez, c'est assez simple. Le bulletin de souscription, 20 000 euros. Et voilà, c'est aussi simple que ça.
Il y a des risques ou pas de risques?
Alors, il y a forcément un risque qui est lié à la liquidité, mais moi qui suis très riscophobe, ce qui m'intéresse dans ce marché et sur les artistes sur lesquels on se positionne, c'est que déjà, la plupart de nos artistes, ils ont un track record. C'est-à-dire que c'est des gens, les œuvres, elles sont réalisées.
Ils sont cherchées.
Ça a des track records de 50 ou 70 ans. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous voulez, est-ce que c'est des marchés sur lesquels il y a des évolutions? Oui, mais elles sont très faibles. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas, on ne découvre pas le marché de Calder actuellement. On ne découvre pas que Calder est un artiste fondamental
donc
dans le XXe siècle.
Risque, mais qui est mesuré.
J'allais dire, ça s'apparente à un marché de l'immobilier de luxe à une échelle internationale.
Vous avez dit un mot des TRI et donc des frais. Il y a des frais?
Alors, il y a des frais qui sont appliqués à l'entrée et à la sortie. Le premier, c'est pour rémunérer notre travail, évidemment, immédiat, et pour structurer le deal, vous voyez, des frais d'encadrement, des frais de restauration, d'assurance, etc. Et puis, on a des frais qui rémunèrent, et ça, on y tient beaucoup, notre performance. On travaille bien, on est heureux d'en faire profiter nos clients, on est content d'être récompensé pour ça, et on applique des frais de 20% sur le carry d'intérêt, donc c'est 20% sur la performance de nos clients.
Matisse s'adresse, on va dire, à monsieur tout le monde, à tous les investisseurs avertis, aux professionnels, au CGP, à qui ?
Alors, d'abord, ça s'adresse à tout le monde qui souhaite se diversifier son patrimoine sur une classe d'actifs que moi, je trouve plutôt assez rassurante en réalité. Si vous voulez, il y a de moins en moins de tableaux de Picasso. Picasso est présenté dans les musées. La demande pour des œuvres de Picasso augmente sur un artiste où il n'y a pas plus d'œuvres. Bah, qu'est-ce qui se passe dans un marché où il y a plus de visibilité, plus de demandes? Eh bien, il y a un effet ciseau, une augmentation mécanique des prix vers le haut. Nous, notre boulot, c'est d'étudier des tickets de loto gagnant. Donc, on étudie, on s'intéresse aux 150 plus grands artistes dans le monde. Donc, moi, ça m'intéresse, cette classe d'actifs que je trouve plutôt rassurante au regard de plein d'actifs, on va dire, plus traditionnels, peut-être. Et puis, pardon de faire cette petite digression, mais c'est un marché où il n'y a pas de dette. Donc c'est un marché qui est relativement sain. Il n'y a pas de leverage dans le marché de l'art.
Ouais.
J'insiste sur ça. Et ensuite, évidemment, accessible à partir de 20 000 euros et auprès de n'importe qui. On travaille, qui souhaite se positionner sur cette classe d'actifs, on travaille avec des particuliers, on travaille avec des gestionnaires de patrimoine, des family office, on travaille avec des banques, bref, et à l'échelon européen.
M-A-T-I-S, ça s'appelle Matisse, et c'est une proposition pour s'intéresser à ce marché de l'art. Merci beaucoup Arnaud Dubois.
Merci,
d'être
Cédric
passé
Decoeur.
Nous voir dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine sur Radio Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.